rédaction. Louis Dauphren.
On va parler à présent de la beauté du geste, de la beauté du sport. Alors c'est vrai, si on devait être quelque peu ironique, on parlerait peut-être d'Emmanuel Macron qui a promis de se baigner dans la Seine. On se souvient de Jacques Chirac qui avait fait la même promesse. En tout cas, le président actuel, en vue des JO, veut y aller. Il a assuré que l'eau du fleuve serait propre à l'occasion de l'inauguration d'une station de traitement des eaux pluviales à Champigny-sur-Marne. Maillon crucial pour la tenue donc de certaines épreuves. Beauté du geste en natation, on le verra si le chef de l'État donc se baigne dans la Seine. Mais ce n'est pas vraiment le sujet que je vais aborder aujourd'hui, même si la beauté du geste en natation peut tout à fait se comprendre. C'est Thierry Grillet, qui est normalien, maître de conférence à Sciences Po Paris, qui a dirigé le département du développement culturel de la BNF et qui publie ce petit traité du geste pour la beauté du sport, donc aux presses de la Cité. Il s'est beaucoup intéressé à cette question, alors non pas celle du sport, des épreuves, des rivalités, des performances, etc., mais plutôt de ce que tout cela signifie en fait. Et là, on va parler liturgie, on va parler mise en scène, on va parler de ce que le sport dit de manière inconsciente à notre imaginaire. Bonjour Thierry Grillet.
Bonjour.
Alors, vous pratiquez le karaté, mais qui n'est pas un sport olympique, hein ?
Alors, j'ai pratiqué le karaté il y a maintenant bien longtemps. J'ai été d'ailleurs champion de Franche-Comté, j'étais un compétiteur. Mais surtout un amateur au sens étymologique du terme, celui qui aime pratiquer une discipline, et en particulier un art martial. Ça m'a apporté, à l'époque où je le pratiquais, une forme de sérénité, puisque quand on est adolescent, on a des besoins, disons, d'expansion, de dépense, d'énergie, et en réalité, cet art martial permettait à la fois de canaliser le besoin de, entre guillemets, de violence, mais de le canaliser et souvent, à partir des maîtres que je pouvais fréquenter, de lui donner un tour un tout petit peu plus spirituel. Comme vous le savez, dans tous les arts martiaux, il y a cette dimension qui est indiquée en japonais par le suffixe « do ». Karaté, do, judo, aikido, le do, c'est la voix. Et je traite dans le petit traité du geste que je publie à l'instant, notamment de l'art du tir à l'arc. Et l'art du tir à l'arc, il y a évidemment un art du tir à l'arc occidental, il est bien connu depuis les temps médiévaux jusqu'à aujourd'hui, mais il y a eu aussi l'art du tir à l'arc japonais, qu'on appelle le kyudo, qui est une manière de pratiquer le zen.
Donc la voix, c'est la sagesse, l'introspection, en fait, à travers le sport. À travers la discipline.
Oui, c'est le calme intérieur. Je me souviens d'une phrase d'une championne coréenne, puisque vous savez, les Coréens sont excellents en art du tir à l'arc aujourd'hui, discipline olympique, qui disait « Au moment de lâcher la flèche, je suis comme une eau calme. » Vous voyez, c'est cet état de, disons, de pacification intérieure qui fait que la performance est atteinte. C'est d'ailleurs pratiquement assez paradoxal quand on parle du geste. Hein, dans ce petit traité du geste, je parle de beaucoup de gestes. Le geste, c'est le mouvement. Or, pour le tir à l'arc, le geste, paradoxalement, c'est l'immobilité. Vous voyez, c'est d'être le plus calme possible.
Qui est une forme de mouvement, finalement, un mouvement intérieur qui amène à atteindre ce point de perfection qui permet que la flèche aille au cœur de la cible. Le karaté, Thierry Grillet, a été remplacé par le taekwondo.
Oui, le karaté donc, qui a été à l'honneur aux Jeux de Tokyo, aux Jeux Olympiques de Tokyo. Or, comme le karaté est quand même un art japonais, il y a les traditions pugilistiques asiatiques sont le kung-fu en Chine, le karaté au Japon, le taekwondo en Corée. Ben, évidemment, quand on a fait les Jeux Olympiques à Tokyo, eh bien, on a plutôt mis à l'honneur le karaté. Malheureusement, alors même que les Français ont une excellente école, et depuis très longtemps, une excellente école de karaté, à Paris, le karaté a été supplanté par le taekwondo et aussi probablement parce qu'on avait besoin de place pour les différentes disciplines. Les JO de Paris verront le skateboard, alors qui a été introduit en 2020, donc c'est un sport entre guillemets assez récent, mais aussi le breakdance. Vous voyez, ce sont des sports très très récents, très nouveaux. Le skateboard est un révélateur d'époque. Donc, on intègre ce sport parce que aussi, il correspond à une montée d'une discipline qui a pris du temps pour devenir une discipline.
Pourtant, la planche à roulettes, hein, le skateboard, oui, n'est pas chose nouvelle. Hein.
Alors, elle est, si vous voulez, si vous la comparez au tir à l'arc, le tir à l'arc, il a 68 000 ans. Puisque, comme vous le savez, on a trouvé des microlithes dans des grottes d'Afrique du Sud qui témoignent qu'il y a 68 000 ans, il y avait déjà des arcs et des flèches, puisque les microlithes sont les petites pointes de flèches. Donc cet art de la chasse, en réalité, qui est devenu un art de la pêche ou un art de la guerre, a traversé les siècles, et puis finalement est devenu une discipline sportive, une discipline olympique. À partir du moment où on n'en avait vraiment plus besoin pour faire la guerre ou pour chasser, puisqu'il y avait d'autres armes. Donc c'est le temps très 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 long là. Et puis vous avez un temps très 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 court. Alors vous dites c'est déjà ancien. En réalité, le skateboard est apparu dans les années 50. À la fin des années 50, en Californie, à Los Angeles, dans le quartier de Dogtown. En fait, c'est du surf sorti des mers. C'est du surf sorti de l'océan. C'est du surf de rue, si vous voulez. Et donc, les jeunes garçons qui souhaitaient faire des surfs et qui étaient plus jeunes, qui étaient une génération, disons, de garçons de 12, 13 ans, et qui étaient interdits de plage et de vagues, par les surfeurs, qui était une communauté peu partageuse, eh bien, ont décidé finalement d'installer des roulettes sur des planches qui ressemblaient à des planches de surf. Elles sont plates, hein, au départ. Et d'ailleurs, la communauté de pratique est marquée parce que par le fait que ces enfants pratique la planche à roulettes pieds nus, comme on le fait du surf.
Au départ, c'était comme ça.
Au départ, c'était comme ça. Donc, vous voyez, c'est un sport très récent, ça a 70 ans.
Voilà, alors je ne remontais pas effectivement aussi loin que les chasseurs-cueilleurs et les arcs, mais je remontais juste aux années effectivement 50-60, où le skateboard est apparu aussi comme un vecteur d'émancipation, aussi une manière de tracer son chemin dans un environnement urbain et de dessiner des lignes.
C'est une appropriation ludique, antifonctionnaliste, si vous voulez, de la ville. Hein, ces jeunes gens décident de s'approprier les trottoirs, les rues. C'est l'apparition des... c'est d'ailleurs curieux, cette convergence, mais au moment même où le rock apparaît, où la notion même de génération de teenagers... Vous savez, c'est la sociologue Margaret Mead qui parle du fossé de génération à la fin des années 50, début des années 60. C'est à ce moment-là qu'une culture jeune, une culture de teenager apparaît. Et c'est à ce moment-là que, en quelque sorte, ces adolescents, cette génération, en quelque sorte, en roue libre dans la ville, apparaît. Donc, ça fait partie de ce mouvement-là. Et à partir de là, il va y avoir une histoire tout à fait passionnante, que je raconte d'ailleurs dans le l'essai, autour du skateboard.
Alors Thierry Grillet, aujourd'hui, il y a aussi l'urbex, hein, les parcours urbains, le fait de sauter d'obstacle en obstacle, et parfois dans des conditions vertigineuses, il y a des accidents qui surviennent, hein. Il y a beaucoup de vidéos accessibles qui donnent des idées, peut-être de mauvaises idées, à des personnes qui ne sont pas suffisamment à même de pouvoir réaliser ce genre de performance. Mais ça, par exemple, ça n'est pas aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques ne valident pas toutes les modes.
Non, bien entendu. C'est, je crois, alors je ne suis pas spécialiste de la manière dont les Jeux Olympiques intègrent ou pas certaines disciplines, mais en effet, il y a beaucoup de disciplines qui ne sont pas... par exemple, le MMA,
voilà, exactement,
ne pourrait pas être dans... Il y a la boxe, il y a le taekwondo, il y a des arts de la lutte et pugilistique différents qui apparaissent. Mais tous les sports, et loin s'en faut, tous les sports ne sont pas représentés dans les Jeux Olympiques. D'ailleurs, quand on parle des arts pugilistiques, on parle de boxe anglaise ou de taekwondo, mais il y a beaucoup d'autres arts pugilistiques. Il y a les arts pugilistiques africains, par exemple, qui sont, je me souviens d'un roman de Chinua Achebe, Le monde s'effondre. C'est un chef-d'œuvre, un petit chef-d'œuvre de la littérature africaine. africaine. C'est probablement d'ailleurs le premier roman africain. Il est paru en 1957. Il est nigérian. Et les premières scènes sont les premières scènes de pugilat, tribaux, de concours de pugilat. Donc vous voyez, toutes les traditions pugilistiques ne sont évidemment pas représentées dans les Jeux Olympiques.
Le sport est-il un simulacre de guerre, Thierry Grillet ? Est-ce qu'en fait, il y a un effet cathartique dans le sport qui ne peut pas se déverser dans l'espace social, ou alors quand il se déverse à la manière des gilets jaunes, cela fait des dégâts ? Mieux vaut que les choses se passent dans un stade ?
Alors c'est vraiment, en effet, c'est cette dimension du sport qui est si importante, qui touche à la fois au sacré et à la politique. Au sacré, à la politique, dans ce que un sociologue anglais des années 50 appelait l'euphémisation de la violence. Il faut pouvoir euphémiser la violence, c'est-à-dire lui donner une forme acceptable, une forme réglementaire. Les règlements participent de cette euphémisation de la violence qui permet, par exemple, au football, qui a des racines médiévales, le calcio ou la soule. Bon, c'était des jeux de ballon rond hein, au Moyen-Âge. La soule était un jeu français où il y avait des morts. Et le calcio italien également à la Renaissance. Il en reste d'ailleurs des manifestations, puisqu'il y a encore à Florence un jeu. Alors je ne me souviens plus exactement du nom de cette compétition qui a lieu à Florence chaque année à l'automne. Mais il y a c'est une compétition où tout est permis. Il y a bien un ballon, mais surtout il y a des bagarres et des bagarres où il y a en effet, j'allais dire, c'est très peu euphémisé. Donc vous voyez de passer de ces formes primitives, archaïques du football, de jeu de ballon au jeu que nous connaissons aujourd'hui avec Coupe du Monde, Euro, etc., avec des règlements, des arbitres. Eh bien, il a fallu du temps pour que ce règlement permettent au fond que la violence puisse s'exprimer dans une forme acceptable, canalisée, réglementée et arbitrée.
Mais Thierry Grillet, je vous répondrai que c'est aussi une forme totalement inutile. Que d'énergie dépensée dans le sport en pure perte ?
Oui et non. Parfois, certaines manifestations sont de l'ordre de la communion. Après tout, vous pouvez considérer aussi que les Coupes du Monde, avec ce grand rendez-vous mondial, c'est un rendez-vous, entre guillemets et au sens étymologique du terme, catholique. Catholicos, c'est-à-dire qui rassemble tout le monde, qui représente une forme d'universalité et de rencontre. Après tout, nous sommes faits pour nous rencontrer, et ces rencontres, qui sont des rencontres pacifiques, heureusement, permettent cette rencontre.
Mais il n'y a pas d'autre message que la rencontre elle-même. Il ne rayonne pas par un projet que l'on exporte.
On pourrait dire que oui, l'enjeu consomme le jeu, peut-être.
Il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu, je ne parle pas de l'enjeu financier, bien sûr.
Non. Hein. Mais parfois, l'enjeu aussi, c'est, comme on le disait dans les années 30 ou 40, il y a une forme d'amitié entre les peuples qui peut se nouer. Et c'est un propos un peu propagandiste, et je ne m'aventurerai pas sur ce terrain.
Bah, si, justement, je vais vous poser une question. Tenez, on sait que Le Triomphe de la Volonté est l'un des premiers films qui a mis en scène le sport et le corps en particulier de manière extrêmement performative et esthétique. Faut-il le lui reconnaître ? Je ne sais pas, mais en tout cas, cela a compté dans l'histoire. Et les JO de 36 sont évidemment l'un des épisodes qui demeurent dans tous les esprits, dans la mesure où le sport n'est jamais indemne de sa fréquentation avec la politique.
Le sport est instrumentalisé, en effet, par les politiques et par l'idéologie en particulier, que ce soit d'ailleurs par le régime nazi à travers les Jeux de 36 ou par l'Union soviétique qui considère qu'en effet, l'athlète est un représentant, disons, de l'excellence d'un système politique et d'un système scientifique. Rappelez-vous que dans les années 30, notre grand champion, Jules Ladoumet, qui était un merveilleux coureur de fond ou de demi-fond, avait été invité par les soviétiques à courir dans les stades moscovites et surtout invité par l'Union soviétique pour qu'on puisse étudier scientifiquement, avec cette science, disons, marxiste, sa foulée qu'on considérait comme une foulée idéale. Vous voyez jusqu'où va, disons, l'idéologie, puisqu'elle considère que l'athlète est le support même de la démonstration de la validité d'une science marxiste.
Alors Thierry Grillet, vous le faites sans idéologie, mais avec poésie. Il s'élance, la balle part tout droit, en plein centre du but, sans feinte, sans beaucoup de force. Elle monte haut, tape sur la transversale et rebondit, heureusement, à l'intérieur du but avant de ressortir. Le gardien, et ce gardien, c'est l'un des meilleurs du monde, Gianluigi Buffon, et qui donc vient de subir le tir de Zidane. On se souvient de cette panenka de Zinedine Zidane. Le gardien a plongé du côté où la balle n'était pas. La balle, elle, est venue là où il n'était plus, où lui n'était plus. Il aurait dû rester, statue du commandeur, à sa place. Zidane a osé la panenka. Un geste comme un coup de tête déraisonnable, diabolique. Tirer une panenka, ce pénalty en feuille morte, est un coup d'audace. Et vous analysez longuement la panenka. La panenka, c'est Antonín Panenka, hein, un joueur de Prague, bien connu. Enfin, oui. Bien connu des footballeurs, en tout cas.
Oui, absolument. Et on a parlé de politique, mais en effet, Antonín Panenka était un joueur des Bohémiens de Prague qui, en 1976, au moment d'une finale des Bohémiens de la Coupe d'Europe, avait rencontré l'équipe de, je crois, c'était une équipe de Berlin, il me semble, de République fédérale d'Allemagne. Et donc, d'une certaine manière, c'était en pleine guerre froide, l'Est contre l'Ouest. Et au moment de tirer le pénalty, il a ce geste totalement fou, non pas de tirer à droite ou à gauche très fort, très vite, mais de faire une passe au centre au gardien, en pariant sur le fait que le gardien part toujours au moment où le pied frappe la balle, et donc par conséquent n'est plus là lorsqu'on lui fait la place, lorsqu'on lui fait la passe. Donc ce pari pascalien, si vous voulez, ce pari en effet, ce jeu avec le feu, c'est quelque chose qui est parce que dans ce geste, alors il y a toute la morgue et l'ironie, et puis le je m'en foutisme pacifiste d'un tchèque qui a lu et qui est pétri de la culture, d'ailleurs c'est lui qui le dit, pétri de cette culture tchèque où vous vous souvenez le brave soldat Schweik, qui est un roman pacifiste des années 14, met en scène les mésaventures d'un soldat qui, véritablement, n'est pas engagé, se fout totalement de vivre ou de mourir, n'est pas du tout dans l'héroïsme. Ben, c'est exactement ça. Le pénalty d'Antonín Panenka, c'est un pénalty non-héroïque, un pénalty dérisoire, qui joue de la dérision...
Et de la ruse.
Et de la ruse.
On est en 76, à l'époque de Panenka, et bien sûr, je faisais allusion à la finale contre l'Italie en 2006.
En 2006, hein, voilà. Pour Zidane.
Pour Zidane.
Oui, oui. Alors, et d'ailleurs, vous noterez que parfois, les gestes conservent dans leur mémoire le nom de leur inventeur. Par exemple, Panenka, Antonín Panenka, qui a laissé donc le nom à ce geste particulier de pénalty en feuille morte, mais il y en a d'autres, le Fosbury, hein, c'est-à-dire le saut en dorsale, ou le Oli, Alan Gelfand, dont le surnom était Oli, est un jeune Floridien qui a inventé un geste particulier pour la planche à roulettes, pour le skateboard. Et donc, là, on voit, et j'allais dire, c'est au cœur de ce petit traité du geste qui réfléchit sur toutes sortes de gestes, c'est que dans le monde de l'athlétisme, dans le monde du sport, il y a ceux qui mettent au point, améliorent, qui sont comme les artisans de la perfection d'un geste, et puis il y a ceux qui sont les inventeurs, les disrupteurs, les révolutionnaires, qui laissent d'ailleurs leur nom à leur geste, comme je viens de le dire. Et paradoxalement, ce ne sont pas précisément, disons, ces artistes, par opposition aux artisans du geste, ce ne sont pas ces artistes qui sont les meilleurs, c'est plutôt les artisans. Par exemple, pour le saut en hauteur, c'est plutôt Javier Sotomayor qui a sauté bien après que Fosbury ait inventé son saut en dorsale, qui est devenu le plus grand champion.
La référence.
La référence. Et pas Dick Fosbury.
Thierry Grillet, si le sport est une religion, le geste est une liturgie. On attend, en fait, du geste qui correspond aussi à une sorte d'habitude. Il y a une attente créée sur le geste, hein, que ce soit le lanceur de javelot, par exemple, ou l'athlète. Et les télés focalisent énormément, de plus en plus, puisque les réalisations télévisuelles sont extrêmement minutieuses. Il se passe quelque chose avant, pendant, après, bien sûr, mais tout est ordonné autour d'une mise en scène.
Oui, absolument. Vous avez employé un mot qui me plaît beaucoup, qui est la liturgie. Dans le geste, il y a une forme de liturgie. C'est d'ailleurs Marcel Mauss qui disait que qu'est-ce qu'un geste ? C'est un geste qui a c'est quelque chose qui a trois dimensions. Une dimension physique, parce que nous sommes des corps. Une dimension technique, parce qu'il y a une discipline. Et une dimension magico-religieuse. C'est-à-dire une espèce de dimension d'enchantement ou de ravissement. Eh bien, en effet, le geste, c'est le moment de l'enchantement du sport. C'est ce moment, dans la continuité d'un jeu, c'est ce moment arrêté qui fait que, à travers la photographie, la chronophotographie, parfois, à la fin du 19e siècle, ou avec un ralenti, on entre dans le mystère du mouvement humain. Car qu'est-ce qu'un geste ? Sinon, un mouvement domestiqué, un mouvement répété jusqu'à ce qu'il devienne un geste et que ce geste devienne un acte. Car en réalité, dans le geste, il y a trois moments, vous les citiez, il y a le moment avant, il y a le moment, disons, pendant, hein, c'est le moment signifiant du geste, le moment, disons, arrêté du geste, suspendu, et puis il y a le moment de l'acte. Dans tout geste, il y a cette dimension. Et c'est une des raisons pour laquelle le geste peut être à cette composante esthétique si belle. Un des exemples que je prends dans le livre, c'est le discobol de Miron. Vous voyez cette sculpture du 2e siècle avant Jésus-Christ où on voit un discobol au pic de son effort dans cette tension maximale et qui a donné en quelque sorte comme le logo du sport et de l'effort.
Merci beaucoup Thierry Grillet, petit traité du geste pour la beauté du sport, entrer dans le mystère du mouvement. C'est ce à quoi donc notre réflexion aura tenté d'aboutir ce matin. Je rappelle que vous êtes normalien, que vous avez dirigé le département culturel de la BNF et la direction du développement de la Bibliothèque nationale de France. Merci.